Bonjour mesdames, messieurs. Voici, aujourd'hui, avant peut-être lors de la prochaine leçon, aborder dernière fois le problème des gata d'un point de vue nouveau, qui n'aura donc plus rien d'historiographique, je voudrais compléter le paysage que nous avons traversé dans cette série de cours, en commentant peut-être d'une certaine façon le problème qui se pose à nous avec les Achéménides. Vous savez, certains d'entre vous ont assisté au colloque du début novembre, bien sûr. Hein. Quelques commentaires seraient peut-être utiles. Il faudrait peut-être, j'aimerais donner quelques précisions sur le problème historiographique que nous pose l'Empire achéménide, qui est la première attestation historique de la civilisation en langue iranienne. Bien, comme j'y avais fait allusion en introduisant au colloque il y a maintenant 2-3 mois, l'histoire achéménide, qui ne relève pas de moi, bien sûr, hein, ce n'est pas en tant qu'historien que j'aborde cette question, mais le problème de l'histoire achéménide a été profondément renouvelé dans le courant des années 1980, avec l'organisation qui a été régulière entre 1983 et 1990 de workshops, d'ateliers d'histoire achéménide, et qui ont abouti, d'une certaine manière, à la synthèse de Pierre Briand, hein, l'histoire de l'Empire perse, qui est paru en 1996. Bon, vous avez sans doute eu l'occasion, dans des années passées, de suivre les cours de Pierre Briand, que Pierre Briand a certainement consacré à la problématique de l'Empire perse et de l'Empire d'Alexandre. Alors, ces ateliers d'histoire achéménide, dont Pierre Briand était une des chevilles ouvrières, était le fait d'une série de jeunes chercheurs à l'époque. Enfin, je citerai les noms que vous connaissez sans doute, que vous avez eu l'occasion de voir, soit parce qu'ils ont été les invités ici de Pierre Briand ou les miens. Enfin, il y avait Hélène Sanchizy, qui malheureusement nous a quittés, Pierre Briand, Clarisse Ehrenschmidt, Joseph Wiesehöfer et aussi Amélie Kurt ou Matthew Stolper. Ce sont des noms qui vous disent évidemment quelque chose. Mais le projet de ces ateliers d'histoire achéménide était de rendre la problématique à la diversité des sources. Jusque-là, l'histoire achéménide était envisagée à travers le prisme de deux sources particulières. D'une part, bien entendu, les sources iranologiques, hein, les inscriptions des rois, et aussi le témoignage des auteurs grecs, dont l'un des plus précis et le plus ancien est bien entendu celui d'Hérodote. Alors, les ateliers d'histoire achéménide avaient, eux, pour projet de rendre la problématique à la diversité des sources, c'est-à-dire d'ouvrir la question aux sources en langue assyrienne, aux langues élamites aussi que l'on venait de découvrir, et aussi de tenir compte beaucoup plus abondamment du témoignage de l'archéologie. Je vous rappellerai, avant d'en finir au problème, bien sûr, de la religion qui nous intéresse, nous, spécifiquement, que les trois grandes révolutions, peut-être thématiques, que ces ateliers ont initiés, c'est surtout la réévaluation du rôle qu'ont pu jouer les Mèdes, l'idée d'un empire Mède qui aurait précédé l'empire perse achéménide et dont les Perses auraient été les vassaux jusqu'à Cyrus, donc jusqu'au milieu du VIe siècle, et a été fortement contesté par les membres des workshops d'histoire achéménide. Hélène Sanchizy y a consacré un article célèbre où elle se demandait « Y a-t-il jamais eu un empire Mède ?» Et certains, effectivement, répondent à la question par la négative aujourd'hui, parce que le rôle joué par les Mèdes se trouve essentiellement dans Hérodote. C'est la seule source qui nous permette de prendre connaissance d'un empire mède. Aucune autre source dans les langues épicoriques, que ce soit l'assyrien, l'élamite ou le vieux perse, ne permet d'imaginer qu'il y ait eu un État d'une très grande ampleur politique qui est précédé l'Empire fondé par les Perses achéménides. La deuxième réévaluation, c'est certainement concerne le personnage de Cyrus. Ben, on considère que Cyrus est le fondateur de l'Empire perse achéménide, qu'il se libère du joug mède vers 559. Mais Cyrus, on le sait dans les sources, par les autres sources aussi, se présente comme roi d'Anshan. Il ne se présente jamais comme perse. Or, l'Anshan, c'est le haut Elam. Il y a une tendance très forte aujourd'hui parmi les spécialistes à considérer que Cyrus n'est pas un perse. Cyrus serait peut-être un élamite, selon certaines sources. Une hypothèse encore plus radicale est représentée par Éric Pirard. Ça paraît fantaisiste, certains considèrent cette hypothèse comme fantaisiste, mais elle ne l'est pas, car l'onomastique de la famille de Cyrus a des apparences étrangement indiennes. Récemment, Éric Pirard a intitulé un article, c'était en espagnol, Cyrus, les premiers, les Perses sont, dit-il, des Indiens, car il est en cela à l'ensemble de la tribu perse. C'est une hypothèse qui repose sur essentiellement des données onomastiques. Je ne vais pas la discuter ici. Qu'il y ait une tribu indienne au Proche-Orient ne doit pas nous surprendre, puisque l'on sait que l'on a trouvé des témoignages de religions védiques et de langues indiennes dans le royaume du Mitanni. C'est-à-dire le royaume du Mitanni est en Anatolie, c'est à peu près dans la région aujourd'hui d'Urfa. Donc la présence de tribus indiennes au Proche-Orient n'a rien d'invraisemblable en soi. C'est la faiblesse des éléments invoqués par Pirard qui fait plutôt problème. Alors la troisième grande réévaluation, c'est l'importance que l'on va accorder au royaume des Lames. Car le royaume des Lames n'a laissé aucune trace, par exemple, chez Hérodote. Hérodote parle énormément des Mèdes, mais il ne dit jamais rien des Élamites. Les Élamites n'existent pas chez Hérodote. Nous savons aujourd'hui que toute l'administration achéménide était rédigée en langue élamite. Donc c'est une donnée qui a échappé, pour des raisons que nous ignorons, aux auteurs grecs. En voilà donc assez pour le domaine qui n'est pas le mien. Je vais en venir maintenant aux problèmes religieux. C'est une caractéristique qu'il faut bien reconnaître aux ateliers d'histoire achéménide d'avoir très peu évoqué le problème de la religion des achéménides. Il y a eu un petit colloque que j'avais organisé à Liège en 1987 avec les habitués des workshops et qui était publié en 1991. Mais c'est la seule intervention qui ait eu lieu sur la religion des achéménides. Et cette négligence a été relevée envers ce problème, a été relevée par Bruce Lincoln dans un article récent paru en 2013. Et Lincoln fait de cet aspect des workshops d'histoire achéménite une analyse avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Car, dit-il, la négligence envers le problème de la religion a eu pour effet, dit Lincoln, de laisser le champ libre, au fond, à la génération précédente, n'est-ce pas ? À ceux qui ne participaient pas, justement, de ce mouvement de renouveau sur des études achéménides. Ce n'est pas totalement exact. Ça, c'est la chose que je pense qui est contestable dans ce qu'écrit Lincoln. C'est qu'en 1983, quand commencent les workshops, le problème de la question de la religion des achéménides est déjà très languissante. Alors qu'elle avait été, c'est un problème qui avait été débattu surtout beaucoup, énormément, dans le courant des années 70. C'est le nombre de contributions d'articles consacrés à la religion des Achéménides parus dans les années 70 est considérable. Et nous avons heureusement une revue de tous ces articles par Clarice Ehrenschmidt dans les Studia Iranica de 1980, si vous pouvez vous y reporter pour avoir un tableau des discussions. Alors, je vais tenter de vous exposer, dans un premier temps, la question pour laquelle ce problème de la religion achéménide a été tellement débattu, une véritable tarte à la crème de nos études à une certaine époque, n'est-ce pas ? Et puis, pourquoi il s'est estompé brutalement des discussions. Bien, la question a été posée sous la forme, c'est bien entendu dans le cadre de l'interprétation historique et biographique du mazdéisme, et la question posée était, les achéménites sont-ils zoroastriens ? La première fois que la question a été débattue avec une certaine précision, avec une certaine ampleur, c'est par Émile Benveniste en 1929, dans son petit livre intitulé « Persian Religion According to the Chief Greek Texts ». C'est la traduction anglaise, parce que ce sont des leçons faites à l'initiative des Parsis, il fallait donc les publier en anglais. C'est la traduction anglaise de conférences prononcées à Paris 3 ans avant. À l'époque, dans les années 20, Émile Benveniste est très jeune. Hein, en 1926, il a 24 ans. Ben, il est l'élève d'Antoine Meillet, c'est-à-dire qu'il le partage à cette époque. Je ne sais pas s'il a changé d'avis après parce qu'il ne l'a jamais dit. Mais à cette époque, il partage certaines convictions d'Antoine Meillet, son maître. C'est-à-dire qu'il adhère à la date, ce que j'appelle la datation pseudo-historique, c'est-à-dire qu'il situe la composition des Gathas ou la vie de Zarathoustra, si, dans cette perspective, au milieu du VIe siècle avant notre ère. Milieu du VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire grosso modo à l'époque de Cyrus, pour la composition des Gathas. Et il situe la composition des textes de l'Avesta récent, au IVe, IIIe siècle avant notre ère. Vous voyez que dans le cadre, vous comprenez, c'est très facile à comprendre, dans le cadre d'une telle chronologie, il est pratiquement impossible de dire que les Achéménites sont, comme on l'aurait dit Benveniste, zoroastriens. Hein, ils ne peuvent pas connaître les Gathas dans une chronologie aussi basse, et ils peuvent encore moins connaître les textes de l'Avesta récent, puisque ceux-là ne sont pas encore rédigés dans la perspective d'Émile Benveniste ou d'Antoine Meillet. Dès lors, lorsque les Achéménides, lorsque Darius, dans ses inscriptions, dit « Ahura Mazda est le plus grand des dieux », mais il est le plus grand des dieux, donc il y a d'autres dieux, ou alors, dit Darius, sont les trois formules, hein, « Ahura Mazda et les autres dieux qui sont hein, », donc il y a d'autres dieux, mais Ahura Mazda est le seul que l'on nomme, mais les autres sont là. Puis, troisième expression qui a la même portée, finalement, Ahura Mazda avec les autres dieux. Ahura Mazda. Dès lors, nous avons affaire, semble-t-il, à quelque chose qui ressemble étonnamment à la situation que nous connaissons dans l'Avesta récent. Pas dans les Gathas, bien sûr, puisque Ahura Mazda est le seul nommé, il n'y a pas d'autre divinité, mais c'est une situation tout à fait comparable à celle de l'Avesta récent, mais qui ne peut pas être celle de l'Avesta récent, puisqu'il n'existe pas. Dès lors, la conclusion est claire pour Émile Benveniste, c'est une forme de religion iranienne non monothéiste, mais distincte, bien sûr, de celle de l'Avesta récent, indépendante de celle de l'Avesta récent. En d'autres mots, la religion achéménide est spécifique. Hein. ils ne sont pas zoroastriens, mais ils professent une religion qui leur est spécifique. Très rapidement, après 1929, en 1938, dans son livre « Des religions des Alten Iran », Henrik Samuel Nuberg va faire intervenir un argument qui permet d'être plus précis dans la discussion historique. C'est l'argument du calendrier. Calendrier, je vous le rappelle, vous en avez eu une copie, hein, c'est-à-dire un calendrier qui donne au jour du mois le nom d'une divinité mentionnée dans l'Avesta récent et agencée de telle sorte que la progression des jours du mois représente à peu près, représente approximativement, comme nous l'avons vu, le corpus des Yasht. Pour l'argument du calendrier, d'après Nuberg, serait le signe, c'est pas que les Achéménides sont zoroastriens, qu'ils connaissent les textes avestiques. Or, quand les Perses, donc dans cette région occidentale du territoire iranien, ont-ils adopté ce calendrier ? On ne le sait pas. À l'époque où travaille Nuberg, et dans les années qui ont suivi, nous n'avons aucun indice, sinon les computations astronomiques, n'est-ce pas, avec tout ce qu'elles peuvent comporter d'imprécis ou bien d'illusions parfois, parce qu'elles doivent tenir compte du fait que les sources nous laissent connaître et ces sources sont critiquables à plusieurs égards. Je ne suis pas un spécialiste des calculs sur le calendrier. Vous savez que le spécialiste de nos jours de ces questions est Antonio Panaino. Mais toujours est-il qu'à l'époque où Nuberg fait valoir l'argument du calendrier, en 1938, les différentes hypothèses sur l'adoption du calendrier théonymique, comme je l'appelle, donc, où les jours du mois portent le nom d'une divinité, eh bien, est situé, selon les différentes hypothèses, entre 505 avant notre ère et 440, c'est-à-dire soit dans les dernières années de Darius, soit sous Xerxès Ier, soit sous Artaxerxès Ier. Donc, entre 505 et 540. Mais, encore une fois, ce sont des conjectures basées essentiellement sur le calcul. Alors, voyez, dans cette perspective, c'est l'argument du calendrier situé dans cette période de temps. Nous y avons déjà fait allusion parce que ceci nous amène, si on imagine que le calendrier est un détail significatif sur le zoroastrisme, nous devons ramasser sur un très court laps de temps toute la littérature avestique. Imaginez que les gathas sont composés au milieu du VIe siècle avant notre ère. Afin que le calendrier puisse se constituer, il faut que l'Avesta récent date d'environ 50, 60, au maximum un siècle plus tard. Et nous avons déjà remarqué ensemble combien cette contraction brutale de la production littéraire en avestique était inacceptable, alors que nous avons tant de détails dans l'hypothèse de Tremblay qui nous montre au contraire qu'il s'agit d'une évolution littéraire très longue et très complexe. Bon, alors, donc c'est dans ce contexte que la religion des Achéménides a été discutée sous la forme de la question zoroastrien ou non zoroastrien. Alors pourquoi dans les années 1980, cette question passe-t-elle à l'arrière-plan? C'est tout simplement l'effet du retour à la chronologie haute. Quelle que soit la manière dont nous considérions les gathas, si nous posons qu'elles ont été composées entre l'an 800 et l'an 1000 avant notre ère, qu'elles soient ou non l'œuvre d'un prophète novateur, il devient tout à fait invraisemblable que si religion prosélytique il y a eu, elle n'ait pas progressé vers l'ouest plus vite, n'est-ce pas, et que les Achéménides n'ait pas été zoroastrien pour répondre à la question. C'est une question qui semble entendue. Je vous ai beaucoup parlé de Karl Hoffmann. Karl Hoffmann ne se posait jamais la question. Il disait, les Gatha, c'est tellement ancien, disait-il, n'est-ce pas? C'est tellement ancien, il faut bien que les achéménites les connaissent, n'est-ce pas? C'est corpus avestique est trop ancien. C'est une question qui ne se pose plus à l'époque achéménide. Naturellement, d'autres questions se posent et nous allons nous les poser, bien entendu. Hein. Mais c'est peut-être le retour généralisé à cette chronologie haute qui a estompé la question de la religion achéménide il y a maintenant une trentaine d'années. Alors, il y a désormais, toutefois, il faut que je fasse intervenir une nouvelle donnée. Depuis 2008, dans la perspective qui était celle des workshops d'histoire achéménide, en 2008 est paru un livre d'une importance considérable dû à Walter Henkelmann, qui a été l'un de nos collaborateurs au colloque du mois de novembre, qui est un spécialiste de l'élamite et qui a étudié les tablettes élamites dites de l'archive des fortifications. Les fouilles menées par les archéologues de l'Université de Chicago en 1935 ont permis de mettre à jour à Persépolis une grande quantité de petites tablettes élamites, n'est-ce pas, qui sont des documents religieux extraordinaires. En réalité, il s'agit des subsides accordés à des communautés locales représentées par quelqu'un qui est un prêtre, nous savons qu'il est prêtre parce qu'il est désigné comme tel, soit par le mot élamite, pour dire le prêtre, chatin, soit par le mot iranien, ou utilisé du moins par Darius lui aussi pour désigner le prêtre, c'est-à-dire magou, le mage. Bon, eh bien, ces tablettes qui établissent donc les subsidiations, ce qui ressemble à une subsidiation de l'État pour rendre certains cultes, font apparaître que dans le monde achéménide, entre l'archive des fortifications, les documents sont datés, les plus anciens datent de 509 et les plus récents de 493. Donc nous avons là environ 15 ans, hein, environ 15 ans de comptabilité des dépenses de l'État au bénéfice des cultes les plus divers, et on voit apparaître un très grand mélange de cultes, où il y a des divinités babyloniennes, des divinités élamites surtout, hein, des divinités aussi iraniennes, et dont certaines n'ont pas des divinités portant un nom iranien, mais dont le nom n'est pas mentionné dans la Vesta. On a donc littéralement un paysage religieux extrêmement bigarré. Hein? Cette découverte, c'est très sensible dans le livre de Henkelmann, que j'avais tenu à rencontrer très vite après cela, pour peut-être même aussi discuter et le mettre en garde, a produit une sorte de sentiment extrêmement nihiliste envers le problème de la religion achéménide. Pour lui, pour Henkelmann, pour l'homme qu'il était, du moins lorsqu'il a rédigé son livre, il valait mieux ne pas poser du tout la question d'un rapport des achéménides, non pas avec le zoroastrisme déjà, mais avec l'Avesta tout court, parce que, disait-il, nous nous trouvons dans un pays, dans l'ambiance du Proche-Orient ancien, Perse et Ilamite cohabitent dans le même univers géographique, semble-t-il, les cultes sont interchangeables, et voilà la réalité du terrain. Et par contre, dit-il, qu'est-ce que cela peut bien avoir, et je lui ai toujours reproché cette expression, avec les « distant Zoroastrian writings ». C'est une expression assez malheureuse. Hein, une expression assez malheureuse que je vais faire marquer, parce que d'abord, on ne peut pas parler d'écrit. Nous savons tous que l'Avesta n'a été mis par écrit que plus de 1000 ans plus tard. Donc, il est préférable d'utiliser des mots plus exacts. C'est une tradition orale. Alors, zoroastrien, qu'est-ce qu'on entend par là? Je ne sais pas. Il faut déterminer un critère du zoroastrisme pour le savoir. Cela, c'est une autre question. Nous nous sommes posés aussi. Alors, surtout, il y a aussi le mot distant. Qu'en sait-on? Où se trouvait la tradition avestique à l'époque de Darius ou de Xerxès? Quelle était son expansion territoriale? Où les textes constitutifs des liturgies avestiques, jusqu'où s'étaient-ils, jusqu'à quelle contrée s'étaient-ils étendus et quelle tribu avait pu adopter cette liturgie? Mais nous allons donc tenter, nous, c'était bien entendu mon intention lorsque nous avons décidé d'organiser, Céline Redard et moi, le colloque de religion achéménide en début de cette année, mais en, bien sûr dans une collaboration la plus étroite avec Pierre Briand et Walter Henkelmann. Je voulais, en tant qu'indo-iraniste, je ne suis pas assyriologue, je ne suis pas ilamologue, je ne suis pas historien, je voulais simplement faire remarquer que nous ne pouvons pas ne pas poser la question du rapport entre les Achéménides et l'Avesta. Bon, d'une façon générale déjà, n'est-ce pas, ce sont les deux seuls documents iraniens anciens existants. La constellation documentaire achéménide, d'une part, le texte avestique, d'autre part. Nous n'avons rien d'autre avant les Ostrakas partent de Nyssa, environ 100 ans avant notre ère. Donc, cette spécificité, cet isolement documentaire pour le monde iranien est déjà une question en soi. C'est évidemment trop large pour être contraignant. Mais il faut savoir que nous savons que la tradition avestique, c'est-à-dire la mémorisation des textes et leurs commentaires, ont été assurés à partir d'une certaine date, inconnue bien sûr, en Perse. Ces documents sont donc à un moment donné entrés en Perse. Quand ? Pour nous, c'est une question essentielle, pour nous, philologues de l'Avesta, parce que cette, on appellerait ça en économie aujourd'hui une délocalisation. La délocalisation de la tradition avestique, c'est le seul fait historique que nous connaissons de l'histoire ancienne de l'Avesta, avant l'époque sassanide. Pour nous, c'est notre seule chance de raccord avec l'histoire. Donc nous ne pouvons pas ne pas évoquer le problème. Si nous avons une petite chance de mettre une date sur quelque chose dans l'histoire de l'Avesta, c'est cela. Hoffmann s'y est attaché, c'est comme cela qu'il a posé le problème, en faisant l'hypothèse arachosienne dont vous parlez pour Hoffmann. C'est à l'époque de Darius que la tradition avestique a été importée et puis cultivée en Perse. Son argument n'était pas bon, comme je voulais faire remarquer. Nous devons donc penser à d'autres types, nous devons recourir à d'autres types d'indices, n'est-ce pas? Alors, je vais dire cela, c'est le point de vue du philologue de l'Avesta que je suis. Moi, je ne veux pas perdre ma seule chance d'approximer une date historique. C'est la seule. Mais du point de vue des historiens de l'Empire achéménide, n'est-ce pas, c'est une question qui s'impose aussi. Et c'est ce que je souhaitais leur faire comprendre, parce que cette question-là leur permettrait peut-être de mesurer de manière plus adéquate, plus juste, une notion avec laquelle ils aiment aujourd'hui travailler et qui est celle d'acculturation. Le mélange des cultes les plus différents dans les tablettes élamites a conduit beaucoup de spécialistes de l'histoire achéménide. C'est le cas de Henkelmann, parce que le mot figure dans son sous-titre, n'est-ce pas, a parlé d'une acculturation élamo-perse, n'est-ce pas, Et puis, à quoi l'on rapporte un autre terme qui est celui d'ethnogenèse, comme si le peuple perse, le peuple qui a porté le pouvoir achéménide, n'est-ce pas, était le résultat relativement récent, à l'époque de la prise du pouvoir par Darius, d'une sorte de symbiose entre une tribu iranienne et des tribus élamites, et les deux étant de surcroît fortement marqués par la culture mésopotamienne. Donc, un mélange culturel, en quelque sorte, qui aurait fini par produire un peuple spécifique, mais où la vieille donnée indo-iranienne ne jouerait pas le rôle primordial. Je pense qu'en définissant le rapport avec l'Avesta, qui ne semble pas, lui, acculturé, puisque pratiquement nous ne possédons, la langue avestique ne possède pas un seul mot d'emprunt, je crois qu'il y en a deux ou trois, mais pas plus. Tous les mots avestiques que nous connaissons sont des mots indo-iraniens. Ils en ont la structure et peuvent être étymologisés. Donc peut-être serait-ce une façon de mieux juger de l'acculturation qui est aujourd'hui une notion à la mode dans la recherche sur l'histoire achéménide. Alors, je ferai remarquer qu'il y a une deuxième raison, c'est l'argument du calendrier. L'argument du calendrier perd sans doute un peu de son importance dans la mesure où la chronologie a remonté. C'est le calendrier adopté sous les achéménides, bien entendu, c'est à une date beaucoup plus récente que la composition des Gathas. Mais toutefois, si, du point de vue chronologique, le calendrier n'a plus la même importance, il a aussi une importance conceptuelle beaucoup plus grande. Vous devez bien l'avoir compris, n'est-ce pas ? Dans la mesure où il est l'expression même de la mesure du temps, qui est tellement importante, c'est tout le système des ratous dont nous avons tellement parlé. C'est le système des ratous qui est inscrit dans le calendrier. Donc, du point de vue culturel, le calendrier est d'une extrême importance, n'est-ce pas ? Il est lié en symbiose parfaite à la tradition avestique, hein, et à son analyse du temps culturel, du temps cosmique, etc. Donc, l'argument qui était purement chronologique a aussi acquis une profondeur conceptuelle beaucoup plus grande de nos jours, parce que le calendrier, nous le savons, il est intimement lié au texte liturgique que nous avons et que nous avons à commenter. Alors, désormais, quand a-t-on adopté ce calendrier ? Nous pouvons être aujourd'hui un peu plus précis. Nous pouvons, dans une certaine mesure, échapper aux données qui ne reposent que sur un calcul conjectural. Nous savons que le calendrier théonymique a été adopté en Perse, a été utilisé en Perse au plus tôt, un peu avant 459. En 459, ce sont les derniers documents élamites qui témoignent de l'ancien calendrier perse. Peut-être que les deux calendriers ont coexisté un certain temps, l'un pour l'usage religieux, l'autre pour l'usage civil, mais en tout cas, ça ne peut pas être longtemps avant 459. Avant notre ère, et ça ne peut pas être après 330, car les documents araméens d'Iran oriental, qui vous avaient été présentés il y a une dizaine d'années par Shaul Shaket, attestent l'usage du calendrier à l'époque d'Alexandre. Donc nous avons une fourchette temporelle beaucoup plus précise. Et Alors, désormais, comment devons-nous travailler ? Comment devons-nous formuler le problème de la religion achéménide une fois que nous avons reconnu que la question devait s'imposer, était une nécessité historique ? Eh bien, je crois qu'il ne faut pas chercher dans la pratique achéménide, quelles que soient les sources, qui en témoignent des traits doctrinaux. Parce qu'il n'y a pas de traits doctrinaux particuliers. Il n'y a aucun trait dont nous soyons sûrs de la pertinence dans une comparaison avec l'Avesta. Il est très intéressant de remarquer que la pratique qui a été courante depuis Benveniste en 1929 jusqu'aux enquêtes des années 70 de dresser une liste d'omissions. Les Achéménides ne parlent pas de ceci, ne parlent pas de cela, etc. Et puis, à côté de cette liste de missions, une autre liste qui est celle des divergences, n'est-ce pas ? Eh bien, la plupart de ces listes de missions et de divergences sont aujourd'hui entièrement vidées de leur contenu. Hein ? Comment peut-on, par exemple, dire, c'est assez curieux parfois la manière dont on pouvait travailler en... Lorsque l'on méprise un certain type de source, n'est-ce pas ? Par exemple, dire que les Achéménides ignorent la notion de Fravachi, dont nous avons parlé ensemble. Mais oui, mais non. Hein, c'est quelque chose qu'ils n'ignorent certainement pas, même si le mot Fravachi, effectivement, ne figure pas dans les, dans les inscriptions royales. Mais tout de même, il y a un roi mède qui s'appelle Fravarti. Hein, c'est la forme... C'est le mot Fravachi. Hein. Et de surcroît, Darius effectivement mentionne aussi un rebelle mède qui s'appelle Fravarti, hein, parce qu'il se réfère bien sûr au nom d'un ancien roi. Donc il faut faire intervenir l'entièreté de nos sources, sinon si nous ne faisons intervenir que les inscriptions royales, c'est très difficile. Alors je serais d'avis, j'ai défendu souvent cette idée, que l'on peut, c'est une pratique d'ailleurs qui n'est pas personnelle, mais qui a été aussi beaucoup utilisée par Cherveux dans une série de publications parues depuis 1902, de série de publications sur la religion achéménide, c'est de chercher ce que j'appellerais des traits légers, de petits indices qui ne demandent pas d'interprétation doctrinale, mais qui témoignent par leur utilisation même du fait que bon, les gens responsables de la rédaction des inscriptions royales ou de certains autres documents pratiquaient le même type de rhétorique, avaient les mêmes schémas mentaux peut-être précis que les gens de l'Avesta. Dans la discussion qui a suivi l'une des communications au colloque achéménide, j'en ai mentionné un. Malheureusement, c'était dans la discussion. Par conséquent, ça va très vite, les choses passent. Je m'y attarderai ici, d'autant que le matériel qui en témoigne est extrêmement bref. L'on a fait remarquer une chose qui paraît... dans une inscription de Darius, c'est l'inscription Suez K, paragraphe 2, que Darius lapidairement définit son rapport à Ahura Mazda en deux termes. C'est pas Mana Ahura Mazda, le génitif singulier du pronom personnel de la première personne, et le nominatif singulier d'Ahura Mazda dans une phrase nominale. Ce qui veut dire « Ahura Mazda est à moi ».« Ahura Mazda est à moi ». Et puis, il renverse la relation immédiatement. « Ahura Mazda Adam ». C'est le génitif singulier du nom d'Ahura Mazda et le nominatif singulier du pronom « moi ».« Je suis à Ahura Mazda ». La relation, hein, tout à fait, l'appartenance réciproque. Ahura Mazda est à moi, je suis à Ahura Mazda. Oui, mais la même formule formulaire se retrouve dans l'Avesta. Elle se trouve dans l'Avesta, c'est dans le Yasna 19, Yasna 19, 12 et 13. Armaï Daman, Armaï, c'est là où on parle d'Ahura Mazda. Hein. Ça, c'est clair dans le contexte. Bon, je me concentre sur l'expression même. Ses créations sont à lui. Les choses qu'il a créées sont à lui. Arma, datif singulier. Dim, dama, bio. Et il est à ses créations. Hein? Ses créations sont à lui. Il est à ses créations. Donc, le même schéma de pensée apparaît, et seulement, cela ne va pas nous imposer l'idée, pas des traits pareils, en général, il y en a beaucoup, on pourra en trouver énormément. Je pourrais, si on devions faire le catalogue, n'est-ce pas, nous serions retenus plusieurs heures. Mais ce ne sont pas des traits qui nous permettent de conclure que les Achéménides connaissaient le texte avestique et d'une certaine manière le démarquaient par ces formules-là, parce que ce sont des traits communs indo-iraniens. Et effectivement, le Rig Veda 8, 92, 32, où le poète, le chantre, parle à Indra en lui disant « Dvam asmakam hein, »« Dvam », nominatif singulier du pronom de la deuxième personne, « asmakam », génitif du pronom de la première personne du pluriel. « Tu es à nous, tu es à nous. Tavasmasi hein, », génitif singulier du pronom de la deuxième personne, et « smasi », le verbe « être » à la première personne du pluriel. « Nous sommes à toi. » Tu es à nous, nous sommes à toi. Donc, nous avons affaire à un trait indo-iranien qui veut... c'est important, bien sûr, afin de nuancer l'idée d'acculturation. C'est clair, c'est une chose claire. Mais ça ne crée pas de lien évident entre le discours achéménide, d'une part, et l'Avesta, d'autre part. Ce sont des traits indo-iraniens communs, des traits issus de la culture indo-iranienne. Alors, nous avons parlé de cela, bien sûr, lors de la dernière fois. Si nous nous entendons aujourd'hui, plusieurs à le penser, depuis les éditions du YHT-19, à penser que s'il y a un trait zoroastrien spécifique dès une époque ancienne et que ce trait spécifique, c'est la doctrine des millénaires, mais bien entendu, il n'y a pas de récit de la doctrine des millénaires dans les inscriptions achéménides, et ce trait spécifique, nous ne pouvons pas en déceler l'existence. Il nous échappe entièrement. Alors, je voudrais revenir ici sur, peut-être, pour tout de même ne pas vous laisser sur une impression entièrement négative, je voudrais revenir sur une hypothèse que j'ai émise pour la première fois dans ma communication au colloque achéménide. Nous disposons tout de même d'un témoignage intéressant si nous le lisons à la lumière de notre nouvelle conception de l'Avesta comme une liturgie compacte, liturgie modulaire plus exactement. C'est la fameuse inscription dite des Daiva que nous devons à Xerxès. Pour la situer historiquement, disons Xerxès, je vous le rappelle, a régné entre 486 et 465. Donc, l'inscription date de son règne. C'est une inscription qui a été découverte en 1935. Hein. Donc, c'est intéressant aussi à noter parce que Nuberk la connaissait, mais Benveniste ne la connaissait pas, hein, puisque elle a été découverte après son livre. Or, c'est l'inscription qu'on appelle l'inscription des Daiva. Que nous dit Xerxès ? Xerxès semble nous dire, semble témoigner étrangement d'une sorte de conversion religieuse. On pourrait comprendre le texte comme ça, ce serait tellement facile, n'est-ce pas ? Dire, écoutez, il dit, voilà, il y avait jadis que, hein, il ne dit pas oui, il y avait que, les Daivas étaient adorés. Moi j'ai dit, on ne doit plus adorer les Daivas. Je ne pense pas. Et là où l'on adorait les Daivas, nous dit-il, j'ai sacrifié à Ahura Mazda, avec l'étrange expression « Artha Cha Brahmani ». Et puis, donc, voici une... Donc, il semble, si nous prenons... si nous voulons essayer de comprendre simplement que Xerxès entend substituer un culte à un autre. Étrangement, on n'a jamais compris l'inscription comme ça. C'était une expression, c'était très simple. Mais on ne l'a pas fait. car sous l'influence de Nuremberg, dès 1938, n'est-ce pas, qui a pensé que, en réalité, Xerxès visait un culte étranger. L'identification de ce culte étranger a bien entendu varié. On a pu y voir, par exemple, la destruction de l'Acropole d'Athènes, la destruction de certains temples babyloniens. Les hypothèses ont varié, mais on a compris que Daïva était le mot démon, bien sûr, le mot Daïva était employé pour désigner les cultes d'une religion étrangère. Il faut dire que l'inscription de Xerxès est là en principe un modèle. C'est une inscription de Darius. C'est la cinquième colonne de l'inscription de Behistun. Dans la cinquième colonne, Darius raconte ce qu'il a fait la deuxième année de son règne. Il en a donc fini avec le récit de sa prise du pouvoir. Il raconte la seconde année de son règne, et elle est marquée par la révolte de deux provinces, les Scythes d'une part, les Élamites d'autre part. Or, dans cette inscription, Darius très, très explicitement nous dit que s'il a réussi à venir à bout des deux révoltes, c'est parce que ces gens n'adoraient pas Ahura-Mazda et que lui a sacrifié Ahura-Mazda et ça lui a permis de mater ces deux révoltes. Donc, voilà, c'est un récit donc, qui est fondé sur la supériorité du culte d'Ahura-Mazda. Or, Henkelmann, dans son livre, a beaucoup insisté sur le fait que, en dépit de la similitude que l'on pouvait établir entre la cinquième colonne de Behistun et l'inscription de Xerxès, il y avait une différence considérable. La différence, c'est que l'inscription de Xerxès est atopique. On ne nous dit pas où. Il n'y avait que, nous dit Xerxès. Il n'y a pas de province ni d'endroit particulier qui soit visé. Et elle est intemporelle. On ne nous dit pas quand. Pour Darius, c'était clair, c'est la deuxième année de son règne. Si, pas quand. Il n'y a ni lieu ni date. N'est-ce pas? Donc, nous sommes dans l'intemporalité complète. Alors, il est très difficile d'avoir devant une telle structure une interprétation de type historique. Comprenez bien que cela m'a permis, en tenant compte de la remarque intéressante de Henkelmann, n'est-ce pas, et ayant en arrière-plan mental, bien entendu, la manière dont nous concevons la Vesta aujourd'hui, je me suis demandé si, comme le dit Xerxès, le fait de répudier les Daïvas, puis de sacrifier d'une certaine manière à Ahura-Mazda, n'est-ce pas, n'était pas l'évocation d'un rite qui consistait à corriger, ce que dit ouvertement Xerxès, ce qui a été mal fait. Il s'agissait de corriger, supprimer ce qui a été mal fait, et au contraire, le remplacer par ce que lui, Xerxès, va bien faire. Alors, révoquer le culte des Daïvas, révoquer l'invitation sacrificielle faite aux Daïvas, comme signifie le terme Paiti Asbayam, et puis sacrifier à Ahura-Mazda, cela pourrait évoquer la structure des rites avec intercalation, d'un sacrifice avec intercalation du Videvdat. Car le nom du Videvdat comporte le nom des Daïvas, La disposition rituelle, le data, traduisons pas par loi, qui est beaucoup trop juridique, c'est pas de cela qu'il est question, la disposition rituelle et qui consiste très précisément, n'est-ce pas, en dispositions rituelles qui constituent des ordres donnés à l'optatif présent, bien sûr, il y a une réalité rhétorique. Donc la disposition rituelle qui vise à tenir les daivas à l'écart. Disposition rituelle qui vise à tenir les daivas à l'écart. Et ce texte intercalé dans l'Yasna, nous en avons souvent parlé, compose donc ainsi, compose une cérémonie qui faite de deux volets, un volet déprécatif, on tient les daivas à l'écart, et d'autre part, l'on offre le sacrifice à Mazdayasna, à Mazda, où l'on se comporte, comme dit le Fravarané, en Mazdayasna, c'est-à-dire celui qui offre son sacrifice à Ahura Mazda. Alors, ceci est entièrement spéculatif. C'est quelque chose qui je n'étais pas convaincu à 100% de cette description, de cette hypothèse, mais tout de même, il y a un détail qui devrait nous... Plutôt, il y en a deux, un détail positif et un détail négatif. C'est tout de même que dans le nom du Videvdat, il y a data. Le Videvdat est un data, c'est un texte de disposition rituelle. C'est une ordonnance rituelle. Or, le mot data figure deux fois dans l'inscription de Xerxès. Xerxès dit, après avoir exposé, n'est-ce pas, son activité de sacrifice en deux volets, exclure les daivas, sacrifier Ahura Mazda, eh bien, il va conseiller aux hommes de procéder par I, littéralement, on dirait parigam dans la Vesta, c'est-à-dire il y a une forme d'activité de circumambulation rituelle, au moyen du data. Procéder au moyen du data qu'Ahura Mazda a institué. Deux fois le terme data est évoqué pour que sa pratique soit recommandée aux hommes. Malheureusement, Vidaiva n'a pas été prononcé. Mais la présence du mot data est tout de même quelque chose de singulièrement impressionnant dans cette inscription, n'est-ce pas ? Alors, le second détail, lui, participe du volet positif, c'est l'expression Artacha Brahmani, n'est-ce pas ? Où l'on trouve deux termes coordonnés. Prenez garde, soyons bons grammairiens, on ne peut coordonner que deux mots qui se trouvent au même cas. Dès lors, il semble bien que ce soit la coordination, comme l'avait déjà reconnu il y a maintenant 50 ans Rüdiger Schmidt, n'est-ce pas, entre le locatif singulier du mot « hurtu », du mot « ratu » par conséquent, particule de coordination, c'est « artu », c'est la forme vieux perse de « hurtu », ou « ratu », et « barosmani », excusez-moi, Brahmani, locatif singulier de Brahman, c'est-à-dire le Brahman, la baguette que l'on tient en main lorsque l'on sacrifie. Donc, deux locatifs, au bon ratou, au bon moment rituel, au bon ratou, et auprès du Brahman, et auprès du Brahman. Or, cela, c'est l'évocation, on peut le lire comme l'évocation des deux premiers chapitres du Yasna, puisque le premier chapitre du Yasna consiste à énumérer les ratous et à faire le choix de l'un d'entre eux, on énumère les ratous. Et le second chapitre du Yasna consiste toujours à répéter l'énumération des ratous, mais en leur adjoignant l'introduction rituelle du Brahman. Donc, il est aussi intéressant de constater que nous avons ici, avec le verbe sacrifier, n'est-ce pas, l'évocation des deux notions qui sont les notions introductives du sacrifice du Yasna. Si mon hypothèse est exacte, nous avons ici le plus ancien témoignage historique d'une cérémonie avestique, n'est-ce pas ? Nous avons la cérémonie du Yasna avec intercalation du Videvdat, sous le règne de Xerxès, entre 486 et 465. Alors, maintenant, je ne peux plus rien vous dire de précis, je peux seulement spéculer, hein, je peux seulement spéculer pour vous dire ma conviction, simplement, rien de plus, n'est-ce pas ? Je pense que l'assemblage de la liturgie du Yasna, Mesta récente, n'est pas due aux Achéménides. Elle est beaucoup plus ancienne. Quand je dis beaucoup plus ancienne, ne situez pas ça des siècles et des siècles plus tard, plus tôt. Hein, mais elle est plus ancienne que l'Empire Achéménide. Elle n'est pas due aux Achéménides. Ils l'ont adoptée. Les raisons pour lesquelles ils ont fini, ils ont adopté cette liturgie et en ont fait celle de tout l'Empire, cela, c'est une autre question. C'est un choix que nous ne pouvons pas nécessairement, manquons de moyens pour le comprendre dans l'état actuel de nos connaissances. Et alors, naturellement, la question de savoir qui a pris la décision de tout ce mouvement que constitue l'histoire de la littérature des textes avestiques, telle que nous avons essayé de la reconstruire ensemble. Hein, c'est aussi une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre pour l'instant. Je voudrais faire remarquer seulement une seule chose, hein, c'est que le mot, c'est que cela a impliqué, et c'est un grave problème aussi, ça a impliqué un changement radical du corps sacerdotal. Les prêtres avestiques, les atarvanes avestiques, n'est-ce pas, ont disparu, hein, et ont été remplacés, au moins dans la terminologie, par les mages de l'Iran occidental. Peut-être mède, peut-être perse, je ne sais pas s'il y a une différence, mais il y a eu une substitution d'un corps sacerdotal à un autre, donc ce qui n'a pourtant pas comporter une rupture de tradition, mais seulement un changement de la langue de la tradition. À partir de ce moment-là, les textes avestiques sont transmis par des gens dont la langue est le perse. Hein, dont la langue est le perse. À ce moment-là, il y a une discrépance qui s'est introduite entre la langue du document et la langue de ses transmetteurs, de ceux qui l'ont transcrit. Alors, si vous voulez bien, nous allons arrêter ces considérations. Je voudrais faire, pour terminer, une petite réflexion, peut-être, sur le disque solaire ailé, qui est aussi une tarte à la crème de la recherche iranologique à une certaine époque. Mais pour vous dire combien je suis personnellement un peu répugnant, ça c'est une idiosyncrasie, à utiliser beaucoup l'iconographie parce que je ne la comprends pas bien. Je connais parfaitement mon impuissance iconographique et j'en tiens compte. Mais je voudrais simplement faire quelques réflexions sur ce symbole, n'est-ce pas, dire comment est-ce que moi, philologue de l'Avesta, lecteur de l'Avesta, je perçois ce disque solaire ailé dont nous voyons ici la représentation sur le tombeau de Darius à Nakhchirustan. On a posé la question peut-être trop sous la forme « qui ? Qui est-ce ?» Hein ? Alors, une des raisons qu'on pourrait on peut dire sur le disque solaire ailé, est-ce que c'est Ahura Mazda ? Moi, lecteur de l'Avesta, je sais qu'Ahura Mazda n'est jamais mis en rapport avec un luminaire. Ni le soleil, ni la lune, ni une étoile, ni quoi que ce soit. Dès lors qu'il figure, en quelque sorte, incorporé au soleil, ça me paraît bizarre. Alors, est-ce qu'il s'agirait de Mitra ? Ben, je dirais que Mitra a certainement un rapport avec le soleil. Pour un lecteur de l'Avesta, c'est clair. Seulement, il ne vole pas. Il ne vole pas. Le soleil non plus, d'ailleurs. Mitra préfère se déplacer en char céleste, certes, mais pas de vol. On a parlé des fravachis, ce serait la fravachie du roi. Effectivement, les fravachis, elles volent, on le dit explicitement. Oui, mais elles sont nocturnes. sont nocturnes. Alors, le soleil, ça tombe assez mal aussi. On a parlé du quarna, c'est-à-dire une sorte de représentation figurant la gloire royale. C'est une hypothèse étymologique. Elle est liée à l'hypothèse qui veut que le mot quarna soit formé sur le nom du soleil, quar. Nous avons eu l'occasion plusieurs fois de voir ensemble que c'était totalement impossible. Parce que le mot quarna que nous avons compte métriquement deux syllabes. S'il comportait le nom du soleil, il en comporterait trois. Car le khwar doit être lu khouar. Le nom du soleil est dissyllabique. Donc il n'y a pas nécessairement un rapport avec le nom du soleil. Et j'ajouterai autre chose. C'est que le quarna est une étrange notion, un peu déconcertante pour un lecteur de l'Avesta, parce que ce quarna ne semble avoir d'importance que dans le texte qui lui est consacré, c'est-à-dire le Yasht 19, que la notion n'est pas omniprésente, loin de là. Alors voilà, moi je ne sais pas comment je dois comprendre le disque solaire ailé, n'est-ce pas ? Si, j'ai moyen, si je ne réponds pas à la question « qui ?» Ne serait-ce pas le cours du temps qui veille sur toutes les activités humaines ? Le cours du temps, ça porte un nom qui figure d'ailleurs au tableau, c'est un ratou, n'est-ce pas ? C'est un ratou. Le temps passe. Le temps passe sur le sacrifice parce que le sacrifice est inscrit dans le temps par sa nature même. Toutes les activités royales, dès lors qu'elles sont reliées à une activité sacrificielle, eh bien, elles aussi, elles sont soumises au cours du temps. Peut-être, vous voyez, l'importance de la formulation de la question, c'est une hypothèse, ce n'est pas une hypothèse que je fais, j'essaye de donner une lecture, simplement, qui soit en rapport avec le texte que j'étudie, et qui est le seul objet de mon étude, n'étant pas iconographe. Alors, je vous remercie pour votre attention, mais avant la fin, je vous rappellerai que la semaine prochaine, c'est la dernière leçon, et ce sera à 10 heures. Il y a donc une petite modification d'horaire. Je vous remercie.